Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons doucement à la fin du premier chapitre de Saint Jean, qui est le gros morceau de Saint Jean au niveau du commentaire, parce que c'est une des parties les plus compliquées de l'Évangile selon Saint Jean. Je pense qu'il me faudra pratiquement toute l'année, encore 2022, pour terminer Saint Jean, le dernier des quatre évangiles, puisque j'ai déjà donné le commentaire concernant les évangiles selon Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Je pense que j'ai encore bien besoin d'une bonne cinquantaine de cours pour finir ce travail, qui est un gros travail, puisque j'arrive déjà à plus de 200 conférences rien que sur les évangiles. Je crois que ça, c'est la conférence numéro 202. Et puis, après, je commencerai sans doute, je suis en train de réfléchir, ça me donne du temps pour réfléchir à ce que je vais faire après. Je pense que je vais vous préparer un cours de théologie, carrément, qui complétera le cours que j'ai donné sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, en suivant un des meilleurs livres de théologie dogmatique, qui est extrêmement bien fait, très thomiste, par l'archevêque de Cuba, Zubizarreta. En plus, cet ouvrage, à ma connaissance, en tout cas, n'existe pas en français. Je l'ai en latin, et donc je l'utiliserai. J'ai un résumé extrêmement rare, une médula, comme on appelle, c'est-à-dire un résumé des quatre tomes faits par Zubizarreta de toute la théologie catholique. Donc j'utiliserai sans doute ce cours pour faire une espèce de résumé de toute la théologie catholique. On va voir, chaque chose en son temps, et peut-être même que je le commencerai en même temps que j'explique les chapitres de Saint Jean. Donc nous en sommes sur le polycopier à la page 17, donc polycopier qui contient les cinq premiers chapitres de Saint Jean. Chapitre 1, verset 35. Donc, je pense qu'il faudra encore deux cours pour terminer le chapitre 1er, donc, qui est très long, puisqu'il a 51 versets. Alors, nous sommes toujours avec Saint Jean-Baptiste. Ce qui frappe chez Saint Jean-Baptiste, c'est son extraordinaire humilité. Donc, il est le précurseur. Vous savez qu'il a été dit sur Saint Jean-Baptiste qu'il était le plus grand des enfants des hommes, après notre Seigneur bien sûr. Et Saint Jean-Baptiste est un saint extraordinaire, justement par son humilité. Tout est résumé dans sa formule, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il va vraiment présenter, il est celui qui introduit, qui fait le pont, qui amène, si vous voulez, l'Ancien Testament au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le baptême de notre Seigneur. Pourtant, il avait tous les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les premiers apôtres même de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient tous des disciples de Saint Jean-Baptiste, notamment Saint André. Donc Saint André, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va arriver, au lieu de chercher à garder ses disciples pour lui, à jalouser un petit peu l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va littéralement lui prendre ses apôtres, ses disciples, Saint Jean-Baptiste est tout heureux d'envoyer ses disciples pour chercher notre Seigneur Jésus-Christ, puisque son rôle, c'est d'amener notre Seigneur. Une fois qu'il a amené ses fidèles, ses disciples à notre Seigneur Jésus-Christ, son rôle se termine. Le lendemain, Jean, c'est Jean-Baptiste, donc, était encore là avec deux de ses disciples. Il regardait, regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Deux disciples, il y avait entre autres saint André qui était le frère de Simon Pierre. Alors, on voit très bien que d'après les pères, saint Jean-Baptiste ne fit que jeter une petite étincelle, mais de cette petite étincelle, on vit s'allumer un grand incendie. C'est tout l'incendie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, saint Jean-Baptiste va souffler littéralement sur les braises pour allumer le feu qui va permettre à notre Seigneur Jésus-Christ d'aller évangéliser le monde, d'envoyer ses disciples, ses apôtres pour évangéliser le monde. On trouve la même image avec d'autres parties de l'évangile, par exemple lorsque on compare l'évangile à un petit grain de sénévé qui devient un arbre sur lequel les oiseaux du ciel vont pouvoir venir nicher, ou à la femme qui mêle à trois mesures de farine une mesure de levain. Le levain va faire lever toute la pâte. Bien, cette pâte qui lève, c'est le sermon de dimanche prochain, cette pâte qui lève est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui va, par son règne social, infuser sa divinité dans toute l'Église. Et ce levain qui fait lever toute la pâte représente aussi le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ qui cache sa divinité dans notre humanité. La pâte donc représente la très sainte Vierge Marie et le levain représente la divinité qui vient en quelque sorte faire lever l'humanité en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui va joindre à sa divinité, les deuxièmes personnes de la Sainte Trinité, la divinité, l'humanité qui lui vient du sein très pur de la très sainte Vierge Marie. Alors pourquoi Saint Jean-Baptiste, au lieu de parcourir toute la Judée pour annoncer Jésus en tout lieu, se tient-il sur le bord du Jourdain? Donc on est à la page 17, en bas de la page, attendant pour le faire connaître que le Seigneur vienne le trouver. Mais tout simplement parce qu'il réservait cette mission aux œuvres mêmes de Jésus-Christ. Il est celui qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que les gens sont arrivés à notre Seigneur Jésus-Christ, il a fini son travail, il a fini son rôle, il se retire. C'est extraordinaire d'humilité. C'est difficile, moi j'avoue, j'ai moi-même eu du mal, à plusieurs reprises dans mon apostolat, parfois, de me rendre compte que mon rôle de prêtre, c'est d'amener les gens à notre Seigneur Jésus-Christ. Puis une fois qu'ils ont trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, au début, évidemment, ils sont très attachés au prêtre, parce que le prêtre leur a tout donné, puis d'un seul coup, ces nouveaux fidèles découvrent vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, et du coup, ils ont de moins en moins besoin du prêtre d'une certaine façon, parce que notre Seigneur Jésus-Christ va prendre ceux qui ont été amenés à lui par le prêtre. C'est vraiment la formule de saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est une prière que le prêtre doit faire très souvent. Non nobis, de nominito da gloriam domine. Au Seigneur, donnez la gloire, non pas à moi, mais à votre nom. Malheur au prêtre qui cherche à retenir les âmes pour lui-même, à voler les âmes. Les âmes n'appartiennent pas au prêtre. Donc il faut que le prêtre fasse très attention, c'est pour moi bien sûr, le prêtre doit faire très attention à ne pas garder les âmes pour lui, à ne pas chercher à retenir les âmes pour lui. Et les fidèles, eux, doivent faire attention de ne pas s'attacher trop humainement au prêtre. Bon, c'est évident que la nature, la grâce n'est pas la nature est cela. Vous avez le droit d'avoir un prêtre avec lequel vous entendez mieux, parce que vous préférez ses sermons, parce que le sermon d'autres prêtres, ils sont complètement, peut-être ils vous endorment, mais vous préférez tel ou tel prêtre parce qu'il fait plus de bien à votre âme. Très bien, ça c'est tout à fait légitime. Mais ne vous attachez pas trop à la personne du prêtre. Le prêtre est un pont qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ, comme saint Jean-Baptiste amenait ses disciples à notre Seigneur Jésus-Christ. Considérez donc, disent les pères, combien cette conduite fut plus utile à l'édification des âmes. Si un autre eut parcouru la Judée pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, on ne put accuser saint Jean-Baptiste d'agir pour un motif tout humain. Sa prédication eut donné lieu à 1000 soupçons. Donc le fait qu'il se décharge complètement, qu'il amène la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui garde absolument rien pour lui, ça prouve toute la grande sainteté de Saint Jean-Baptiste. On voit très bien, au Moyen-Âge d'ailleurs, je vous l'ai déjà souvent dit, les deux saints, plus de la Sainte Vierge bien sûr, qui est un peu hors concours, les deux saints qui avaient le plus d'influence certainement au niveau des âmes, c'était Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, parce que bien évidemment, comme c'est une pécheresse convertie, bon, les barbares se retrouvaient tout à fait en elle, et les nouveaux chrétiens se retrouvaient en elle. Il y a toujours une grande dévotion envers Sainte Marie-Madeleine, en France notamment. Il ne faut pas oublier que Sainte Marie-Madeleine est celle qui est venue apporter la foi catholique en France, hein, avant l'arrivée de Saint-Paul. Avant l'arrivée de Saint-Paul, vraisemblablement, Saint-Paul est arrivé plus tard, puisque Saint-Paul n'a pas connu de son vivant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Sainte Marie-Madeleine est arrivée au Sainte Marie de la Mer avec sa sœur, Sainte Marthe, son frère, Saint-Lazare, et toute une série de personnes qui étaient dans la même barque. Et Sainte Marie-Madeleine est venue évangéliser avec sa sœur et son frère, et ceux qui étaient dans la barque, évangéliser le sud de la France, avant d'aller à la Sainte-Baume, où elle a passé 30 ans à faire pénitence. C'est pour cette raison, on est à la page 18. C'est pour cette raison que les prophètes et les apôtres ont annoncé Jésus-Christ lorsqu'il n'était pas présent, les uns avant son avènement et son incarnation, les autres après son ascension. Mais voyez comme Jean-Baptiste rend témoignage non seulement de la voix, mais aussi des yeux. Et regardant Jésus qui s'avançait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui que j'ai annoncé. Voici celui qui doit croître en vous et qui doit me faire diminuer parce que c'est pour lui que je suis venu. » Alors, on voit que Saint Jean-Baptiste veut utiliser un mot très beau, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il y a d'autres textes un peu plus loin dans les Pères, justement, sur cet agneau de Dieu, la signification du mot agneau de Dieu. L'agneau est le symbole de l'innocence, symbole de la pureté aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ aime se présenter comme le pasteur des âmes. Le pasteur, c'est celui qui s'occupe des agneaux. Les agneaux qui sortent du ventre des brebis symbolisent l'âme nouvelle qui commence à suivre notre Seigneur Jésus-Christ après son baptême. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est le pasteur des brebis. Il a un troupeau de brebis et il s'occupe de ces brebis. Il connaît chacune des brebis par leur nom, et il appelle les brebis, il vérifie qu'elles sont là toutes les soirs. Quand il y en a une qui manque, même si c'est une petite casse-pied qui embête tout le monde dans le troupeau, eh bien, il lâche tout pour aller chercher la brebis qui manque. Il va la chercher toute la nuit, et il la ramène. Et il y a plus de joie, nous dit notre Seigneur, pour une brebis qui avait besoin de faire pénitence, que pour 99 brebis qui n'avaient pas besoin de faire pénitence. Donc on voit comment notre Seigneur aime se faire appeler le bon pasteur. On trouve beaucoup ça sur les chapiteaux du Moyen-Âge, dans les églises romanes, on trouve beaucoup de chapiteaux qui représentent justement notre Seigneur Jésus-Christ avec la houlette du berger. D'ailleurs, la crosse des évêques vient de ce symbole. C'est le berger qui guide son troupeau avec la houlette. La houlette indique le chemin à suivre et la houlette est aussi un moyen de protection contre les attaques des loups ou des aigles qui cherchent à venir manger les agneaux. On retrouve aussi la beauté de ce terme de pasteur chez Abel le juste, le fils d'Adam et Ève. Caïn va tuer son fils, son frère, pardon, Abel. Caïn était agriculteur et Abel était éleveur. Et son sacrifice fut regardé par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu, alors que le sacrifice de Caïn ne fut pas regardé. Et du coup, Caïn était jaloux de son frère et a tué son frère, le premier meurtre. Il sera suivi de beaucoup d'autres. Donc il faut réaliser qu'une âme devant le bon Dieu doit être comme un petit agneau. Un petit agneau, il a une faiblesse, si vous voulez, il ne peut rien faire par lui-même. Donc tout de suite, il va chercher sa mère. Et l'agneau représente donc l'innocence, la pureté, la simplicité, la docilité, l'obéissance, toutes ces vertus qui sont tellement méprisés par les modernes, qu'on appelle les vertus passives, et qui amènent à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur est en effet l'agneau proprement dit, donc le seul qui soit sans péché, dont on n'a pas besoin de laver les souillures, mais qui a été sans souillure aucune. Il est par excellence l'agneau de Dieu, parce que ce n'est pas le sang, que par le sang de cet agneau que les hommes ont été rachetés. C'est cet agneau que redoutent les loups et qui a donné la mort au lion après que lui-même ait été mis à mort. Donc, rappelez-vous ce qu'on dit au moment de la communion, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui est voilà celui, cet agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Donc l'agneau qui est envoyé à la boucherie, qui va être immolé comme innocent pour ceux qui ne sont pas innocents. Donc le sang de l'agneau est répandu pour sauver le sang des coupables qui ne veulent pas se reconnaître justement coupables. Alors l'agneau s'offre en sacrifice à son père en réparation des péchés des hommes. Donc quand on parle d'agneau, on parle tout de suite de sacrifice. L'agneau est intimement lui lié au sacrifice. L'agneau divin, c'est l'agneau qui se sacrifie. Et on ne peut offrir à Dieu en sacrifice que quelque chose de parfaitement pur. Donc il y a une pureté dans l'agneau, une innocence dans l'agneau qui est caractéristique. Là, il y a d'autres termes, une autre explication très belle de Saint Bède le Vénérable, un grand père de l'Église anglais. Il s'appelle encore agneau parce que il devait nous laisser un don gratuit sa toison pour nous en faire une robe nuptiale. C'est très beau comme image. C'est-à-dire qu'il a voulu nous laisser les exemples de sa vie pour nous communiquer les saintes ardeurs de la charité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va se laisser tondre, littéralement, comme un agneau conduit à la boucherie, qui est tondu auparavant. On va utiliser sa laine, et avec sa laine, on va faire une toison qui va nous couvrir. La toison qui vient de la laine de l'agneau va couvrir le corps de celui qui était nu, le corps de celui qui était pauvre, qui n'avait plus rien. Et donc, avant de donner sa vie, l'agneau va donner sa toison pour que de cette toison, on puisse en faire une couverture pour le pauvre et celui qui est dans la nudité, qui est dans la déréliction, qui n'a plus rien. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est cet agneau divin. C'est le symbole de cette laine de l'agneau qui fait la toison pour nous couvrir, la robe nuptiale. N'oubliez pas que cette robe nuptiale représente le mariage spirituel, fait allusion au mariage spirituel de l'âme nouvelle qui épouse notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que le but de notre vie spirituelle, c'est de monter en vie unitive. La vie unitive, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. On part de la vie purgative, la vie de purification, on monte en vie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit avant d'arriver en vie mystique ou en vie unitive. La vie unitive, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. Et donc, la robe nuptiale nous rappelle qu'on est appelé à devenir époux de notre Seigneur Jésus-Christ sur le plan mystique. Donc, il veut nous donner les exemples de sa vie comme agneau pour nous communiquer les saintes ardeurs de la charité. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ non seulement se fait crucifier, mais avant de se faire crucifier, il va se faire tondre. Se faire tondre pour que, de cette laine, encore une fois, on puisse avoir de quoi couvrir notre nudité. Alcuin, autre père, dans le sens figuré, Jean-Baptiste s'arrête, c'est-à-dire que la loi cesse et Jésus vient, c'est-à-dire la grâce de l'Évangile à laquelle la loi elle-même rend témoignage. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ vient prendre, si vous voulez, le flambeau qui lui est transmis par Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste va transmettre un petit flambeau et notre Seigneur Jésus-Christ va se saisir de ce flambeau et allumer un grand feu qui va embraser tout l'univers. C'est l'image. C'est ce qui est expliqué par le fait que Jésus se mette en marche pour réunir ses disciples. Vous voyez ? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas assis en train de bronzer au soleil, pas du tout. Il passe parce qu'il est en marche apostolique. Voici l'amour de Dieu, dit Saint Jean-Baptiste. Et donc, Saint Bède le Vénérable explique que cette marche de Jésus représente la divine économie de l'incarnation par laquelle il a daigné venir jusqu'à nous et nous laisser les exemples d'une vie sainte. Et donc, on voit tous ces symboles magnifiques de l'agneau divin. Et on retrouve ce symbole dans les textes de la messe. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui a enlevé les péchés du monde par son sacrifice. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est comme un agneau conduit à la boucherie. Vous avez aussi tous ces textes magnifiques que j'ai souvent cités, j'ai souvent lus dans ces cours, d'Isaïe, Notre Seigneur Jésus-Christ est présenté justement comme l'agneau qui est conduit à la boucherie pour être massacré pour nous. Hein, c'est autour du chapitre 53, 53 du prophète Isaïe. Il est comme un agneau. Alors continuons, versets 37 à 40 de Saint Jean chapitre 1. Les deux disciples l'entendirent parler ainsi et suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné, voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Qui cherchez-vous ? Que cherchez-vous ?» Et lui dire « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeurez-vous ? » Et il leur dit « Venez, voyez. » Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils restèrent chez lui ce jour-là, étant environ la 10e heure. Or, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Donc, cette 10e heure, vous savez que les anciens comptaient les heures à partir de 6h du matin. Donc, 6h du matin, c'est la première heure. Donc, 10e heure, c'est 10 plus 6, ça fait 16h. Donc, c'est 4h de l'après-midi. Donc, ils vont passer la soirée chez notre Seigneur Jésus-Christ pour commencer à s'imprégner. Ils savent pas encore qu'il est Dieu, attention. Cependant, Saint Jean-Baptiste leur a prépare leur intelligence. Voici l'agneau de Dieu. Bon. Après, il va falloir qu'eux-mêmes fassent le rapport entre cet agneau de Dieu annoncé par Saint Jean-Baptiste et la divinité même de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'ils ne vont pas croire immédiatement. En fait, ils vont commencer à croire après le miracle de Cana, le premier miracle qu'on verra dans le chapitre suivant. Le miracle de Cana, après le miracle de Cana, le premier miracle qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, il est indiqué, alors ses disciples crurent en lui. Sous-entendu, ils ne croyaient pas encore au début. Ils étaient attirés par lui de façon naturelle, et là, ils vont voir derrière l'humanité, ils étaient attirés, si vous voulez, par l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, et là, ils vont voir avec le miracle, les premiers miracles de notre Seigneur, le premier miracle, c'est le miracle de Cana, le changement de l'eau en vin, ils vont voir la divinité qui, à ce moment, commence à resplendir derrière. Alors, l'un de ces deux disciples, c'était André. André va aller chercher son frère, Saint-Pierre, il va amener Saint-Pierre à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au verset 40. André, frère de Saint-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Alors, qui est le deuxième? Je ne crois pas que ça soit indiqué, il me semble que c'est Saint-Jacques. Saint-Jacques ou Saint-Jean. Vraisemblablement, c'était sans doute peut-être Saint-Jean. En tout cas, celui qui est cité nommément, c'est Saint-André. Donc Saint-André est l'un de ses deux disciples, verset 37, qui entendirent Saint-Jean-Baptiste parler ainsi, qui suivirent Jésus. Donc Saint-Jean-Baptiste annonce et monte du chemin et montre du regard cet homme qui passe, voici l'agneau de Dieu. Sous-entendu, c'est lui que je suis venu annoncer, c'est lui maintenant, après lui que vous devez aller. Vous êtes venu jusqu'à moi, vous m'avez suivi, vous avez suivi mes enseignements, vous avez suivi mes exemples, vous avez suivi ma vie de pénitence. Maintenant, allez suivre mon maître parce qu'il faut qu'il croisse et moi que je diminue. Et il en est un très grand nombre qui se sentent moins attirés à Dieu par les considérations levées sur sa nature divine que par l'exposé de sa bonté, de sa miséricorde et de ce qu'il a fait pour le salut des hommes. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, présente son humanité. Il est plus facile de suivre l'humanité aimante de notre Seigneur Jésus-Christ que sa divinité qui va un petit peu nous paniquer. On voit très bien la transfiguration. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dévoile une toute petite partie de sa divinité, les apôtres paniquent complètement et tombent la face contre terre tout de suite. Eh bien, là, on voit très bien que si on a peur de venir à notre Seigneur Jésus-Christ à cause de sa divinité, donc il faut passer par son humanité. L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ est un moyen d'arriver à sa divinité. C'est pour ça qu'il se présente comme l'agneau, parce que personne n'a peur d'un agneau. C'est pour ça que notre Seigneur se présente aussi comme un enfant, littéralement, parce que personne n'a peur d'un enfant. Vous voyez, personne n'a peur d'un sourire d'un bébé fait craquer tout le monde, même les bandits. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, se présente comme l'agneau de Dieu, cet agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, dans les deux mots, vous avez tout le mystère de l'incarnation. L'agneau, c'est l'humanité, de Dieu, c'est la divinité. Donc, la divinité, Dieu, qui se cache dans l'humanité, l'agneau. C'est pour ça qu'il est agneau de Dieu, mystère de l'incarnation. Incarnation, je vous rappelle la signification de ce mot, prendre chair. C'est la divinité qui vient se cacher dans l'humanité comme le levain se cache dans la pâte, comme le grain de sénévé qui doit être écrasé pour donner son amertume. Le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. C'est l'évangile de dimanche prochain. Remarquez que tandis que Jean-Baptiste prononce ces paroles, voici dans nos yeux, Jésus ne dit rien. En effet, d'après les usages reçus, l'époux reste dans le silence. D'autres lui amènent l'épouse et lui remettent entre les mains. Donc, cette épouse que Saint Jean-Baptiste amène à l'époux, donc les amis de l'époux vont chercher l'épouse, la future épouse, ou celle qui est devenue épouse, et vont l'amener au seuil de la maison de l'époux. Puis l'époux va prendre dans ses bras l'épouse et va l'amener dans sa maison qui va devenir la maison de l'épouse aussi. Cette épouse, c'est l'Église. L'Église est l'épouse mystique du Christ. L'Église est le corps mystique du Christ, donc ça correspond à l'épouse du Christ. Donc l'époux reste dans le silence et les amis de l'époux amènent l'épouse dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, la prophétie, l'annonce de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix juste avant de mourir à sa mère. Femme, mère, femme, voici votre fils. Voici votre fils. Donc, Notre-Dame était mère du corps physique du Christ et elle va devenir mère du corps mystique du Christ en acceptant de devenir mère de l'Église. Donc, l'agneau de Dieu, ici, représente l'Église. C'est pour ça que les pères disent que d'autres amènent l'épouse et la lui remettent entre les mains. Mais aussitôt qu'il l'a prise pour épouse, il lui témoigne tant d'affection qu'elle ne se souvient plus de ceux qui l'ont conduite à son époux. L'épouse est toute donnée à son époux. Donc l'Église catholique, étant l'épouse mystique du Christ, doit avoir les yeux fixés, si vous voulez, comme sur un but, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est l'époux. Ainsi, lorsque Jésus-Christ vient pour épouser l'Église, disent les pères, il ne dit rien non plus. Jean-Baptiste, son ami, s'approche seul, lui présente la main droite de son épouse, lorsque par ses discours, il remet comme entre ses mains les âmes des hommes. Jésus les accueille et leur témoigne aussi tant d'amour qu'elle ne retourne plus à Jean-Baptiste. C'est une très belle image de Saint Jean-Baptiste qui est l'ami. Donc, les pères disent que Saint-Baptiste est l'ami de notre Seigneur. C'est extraordinaire comme titre. Eh bien, Jean-Baptiste, comme ami de notre Seigneur Jésus-Christ, prend par la main l'Église naissante et l'amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il prend par la main ses propres disciples, ici c'est Saint André dont il est parlé, sans doute Saint Jean ou Saint Jacques, et il amène ses disciples à notre Seigneur Jésus-Christ parce que tel est son rôle, d'amener l'épouse à l'époux. L'épouse, c'est l'Église catholique. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va, si vous voulez, va prendre littéralement toute l'autorité naturelle qu'avait Saint Jean-Baptiste sur ses amis. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va littéralement, non pas voler, le terme est trop fort, mais prendre à Saint Jean-Baptiste tous ses disciples, et le rôle de Saint Jean-Baptiste va se terminer à ce moment-là. Vous voyez ? Donc il va vite, rapidement être condamné à mort par Hérode, en protection du mariage chrétien, et il va avoir la tête tranchée. Et on voit très bien dans l'Évangile, après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le début de sa vie publique, on n'entend plus parler de Saint Jean-Baptiste, sauf pour sa mort. Et l'Église catholique a une dévotion très très forte envers Saint Jean-Baptiste, parce que justement, il est celui qui a amené l'épouse, l'Église qui commence à naître, à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'époux. L'épouse, tant qu'elle n'est pas dans la maison de l'époux, n'appartient pas vraiment à l'épouse. Et elle ne peut même pas encore porter son nom, elle n'a aucune autorité dans la maison, puisqu'elle n'est pas encore dans la maison du maître. Mais une fois qu'elle est arrivée entre les bras, dans la maison, à la porte de son épouse, que les amis de l'époux ont amené littéralement par la main l'épouse à l'époux, à ce moment elle rentre dans la maison, elle prend une partie de la dignité de l'époux. De l'époux. C'est pour ça que l'épouse va prendre le nom de l'époux. C'est très important pour nos catholiques, Vous voyez, je dis souvent ça aux catholiques qui seraient peut-être parfois un peu tentés par certaines des idées modernes. Et j'ai connu, parfois, c'est un peu triste, des jeunes femmes catholiques qui se marient et qui gardent leur nom de jeune fille alors qu'elles sont mariées. C'est pas normal du tout. Parce que justement, à partir du moment où une jeune fille épouse son mari, elle rentre dans la vie de l'époux. Et pas l'inverse. C'est pas l'époux qui rentre dans la vie de l'épouse, c'est l'épouse qui rentre dans la vie de l'époux. Parce que l'épouse va être introduite dans la maison de l'époux, devenir la reine de la famille. Mais c'est l'époux qui est chef de famille. Dieu a voulu que l'époux soit chef de famille. Et donc l'épouse doit prendre le nom de famille de son époux. L'épouse prend le nom de famille de son époux parce que justement, elle ne s'appartient plus, elle appartient à l'époux. Et autre chose aussi, j'insiste aussi beaucoup là-dessus pour que les gens qui sont mariés, religieusement mariés devant Dieu, portent avec fermeté leur alliance. C'est très important. De même que lorsqu'une religieuse fait ses vœux définitifs, on lui donne une alliance pour bien montrer qu'elle est mariée à notre Seigneur Jésus-Christ avec ses vœux définitifs. Mais c'est pareil pour une personne qui est mariée avec le sacrement de mariage. Donc portez votre alliance ceux qui sont mariés. Et attention aussi, c'est un détail, mais j'en profite puisque j'en parle, d'enfoncer un peu le clou sur ce sujet, attention aux gens qui sont malheureusement séparés, qui sont mariés religieusement, hélas séparés, hélas c'est très fréquent aujourd'hui malheureusement, c'est beaucoup trop fréquent, mais enfin c'est un fait, des gens qui sont soit l'épouse sont encore très catholiques, mais qui sont là séparés de leur époux ou de leur épouse. Bon, parce que, les vicissitudes de temps, les difficultés, je ne sais quoi, je ne m'en mets pas trop en général, mais ils sont séparés. Bon, il vaut mieux se séparer plutôt que s'envoyer des assiettes à la figure, c'est absolument évident. Mais même si vous êtes séparé de votre époux, séparé de votre épouse, si vous êtes marié religieusement, vous êtes toujours marié, attention. Donc, portez toujours votre alliance. C'est très important, à mon avis, pour les femmes, surtout pour les femmes, qui sont encore relativement jeunes et qui sont séparés de leur époux, qu'elles portent leur alliance pour bien montrer qu'elles sont toujours mariées. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et attention aussi, une autre erreur qu'on rencontre beaucoup trop souvent, ça c'est vraiment assez triste malheureusement, je ne juge pas encore une fois ceux qui le font, parce que souvent ils le font pour des raisons légales, mais je pense qu'une femme, une épouse qui est séparée hélas de son mari, doit faire très attention de garder son nom d'époux, de nom de famille de l'époux, de son mariage. Elle n'est plus mademoiselle avant son mariage, donc il ne faut pas qu'elle reprenne son nom de jeune fille, mais qu'elle garde son nom d'époux, parce que devant Dieu, elle est mariée à cet époux, et c'est lui qui sera jugé comme chef de famille, puisqu'ils sont toujours mariés devant Dieu. Attention à ça, n'oubliez pas qu'un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas dissoudre, annuler un mariage catholique. Donc n'utilisez jamais cette formulation beaucoup trop dangereuse qu'on entend hélas beaucoup trop souvent dans le milieu d'annulation de mariage. Un mariage par définition ne peut pas s'annuler. C'est comme si je parlais d'annulation du sacerdoce, mais on ne peut pas annuler un sacerdoce. Tu es sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedec. Tu es prêtre pour toute l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Quand vous êtes marié non pas pour toute l'éternité, vous êtes marié tant que l'un des deux est encore en vie. Tant que les deux sont en vie. Quand un meurt, à ce moment-là, le lien du mariage est rompu. C'est vrai, mais pas avant la mort. Donc il n'y a pas d'annulation de mariage, ça n'existe pas, quoi qu'en dise la fraternité symboliste. Donc attention à ça. Je ferme la parenthèse. Donc, cette marche de Jésus, dit saint Bède le Vénérable, représente la divine économie de l'incarnation par laquelle il a daigné venir jusqu'à nous, nous laisser des exemples d'une vie sainte. J'ai expliqué. Alors, voyons un peu maintenant les versets 37 à 40. Je crois que c'est là où j'en suis. Les deux disciples entendirent parler ainsi et suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit que cherchez-vous ? Donc, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà lu ces passages. Alors, je reviens un peu en arrière là, j'ai déjà expliqué ça, donc on est à la fin de la page 18, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais déjà expliqué cette partie. Alors, dernier paragraphe de la page 18. Donc, remarquons encore, disent les pères, que dans la célébration des noces, ce n'est pas la jeune fille qui va au-devant de son époux, c'est lui-même qui vient la trouver, quand ce serait un fils de roi qui épouserait une humble servante. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait de même. La nature humaine n'est point montée dans les cieux, c'est le Fils de Dieu qui est venu la trouver, qui l'a conduite dans la maison paternelle. Donc, la divinité est comparée à l'époux, et l'humanité est comparée à l'épouse. Et donc, il y a union entre l'épouse et l'époux, donc union entre la divinité et l'humanité. Et c'est évidemment la divinité qui est maîtresse de la maison, maître de la maison. Donc, c'est la divinité qui descend sur la terre. C'est ça le mystère de l'incarnation. Par l'incarnation, Dieu quitte littéralement le ciel pour venir sur la terre afin que l'homme puisse monter dans les cieux au moment de sa mort s'il meurt en état de grâce. Dieu devient homme, dit saint Augustin, pour que l'homme puisse devenir Dieu. C'est une très belle phrase, je crois que c'est saint Augustin qui dit ça. La nature humaine n'est point montée dans les cieux, c'est le Fils de Dieu qui est venu la trouver et qui l'a conduite dans la maison paternelle. Donc la maison paternelle, c'est d'une part le sein de la Sainte Vierge Marie, puisque c'est dans le sein de la Sainte Vierge Marie que va s'opérer le miracle de l'incarnation, et c'est aussi l'Église. C'est pour ça que la Sainte Vierge Marie est mère de l'Église. Passons à la page 19. Je l'ai peut-être déjà dit, un peu plus si j'ai déjà expliqué. Il peut y avoir des petites différences de pagination ou de ligne maintenant, parce que, encore une fois, j'ai dû changer le système de l'ordinateur. Je suis passé de Windows à Linux. Et la reconnaissance des caractères n'est pas la même. Donc ça me fait des décalages de lignes. Je n'ai pas pu rattraper ça comme j'aurais voulu. Je m'excuse, je ne suis pas très doué moi, en informatique. Alors, page 19. Alors, dans le sens mystique, voyons un petit peu le sens mystique de ce passage. Entre autres, le passage où les deux disciples de Saint Jean-Baptiste arrivent vers notre Seigneur Jésus-Christ en lui demandant, Rabbi, où demeurez-vous? Maître, où demeurez-vous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens mystique, page 19 en haut de la page, ces deux disciples demandent à Jésus-Christ dans quelles âmes ils daignent habiter, afin qu'en imitant leurs exemples, ils puissent mériter la même faveur. Ou bien encore, ils virent Jésus marcher et lui demandent aussitôt où il demeure. Et il nous enseigne par là, lorsque nous méditons intérieurement sur l'incarnation du Fils de Dieu, à le prier avec instance et ferveur de nous faire connaître le lieu de son éternelle demeure. Donc on cherche l'humanité, on va vers l'humanité, mais l'humanité est le pont qui nous conduit à la divinité. Donc il est plus facile de commencer à s'attacher à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. On a le droit de s'attacher à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sans oublier que cette humanité est unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La divinité cachée derrière l'humanité. Donc il faut commencer par prendre l'humanité, creuser dans l'humanité pour trouver la divinité. Je n'ai pas oublié que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement homme, mais Dieu. Donc l'humanité cache la divinité, comme les espèces eucharistiques, telles que nous les voyons, c'est-à-dire les accidents du pain et du vin, cachent la divinité. Parce que je présente, au moment de la communion des fidèles, l'hostie consacrée aux fidèles, qu'est-ce que je dis ? Ecce agnus Dei, ecce quitterit peccata mundi. Voici l'âme de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Bon. Je présente une hostie, les sens humains des personnes qui regardent cette sainte hostie ne voient qu'un bout de pain, ils ne voient que ce qu'on appelle les accidents, c'est-à-dire la blancheur, la taille de l'hostie, le nombre d'hosties dans le ciboire, etc. Ils ne voient que ça. Bon. Mais derrière ces accidents se cache non plus la substance du pain qui a complètement disparu, mais la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement. Et par concupiscence, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant au ciel, qu'il ne peut plus y avoir de séparation physique sanglante entre son corps et son sang, donc avec le corps, vous avez également, par concomitance, nous dit saint Thomas d'Aquin, et son sang et son âme et sa divinité. Donc, l'incarnation, c'est-à-dire le miracle de l'incarnation, n'oubliez pas, est aussi renouvelé d'une certaine façon dans nos âmes à chaque fois qu'on va communier. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas du tout. Quand je communie, je vais unir mon humanité à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le prêtre dépose sur ma langue l'hostie consacrée, il va permettre d'unir la divinité qu'il dépose sur ma langue avec mon humanité. C'est le mystère de l'incarnation qui est renouvelé d'une certaine façon. Et donc à ce moment-là, dès qu'on l'a reçu en nous, il faut faire une action de grâce fervente pour prier avec instance qu'il nous fasse connaître le lieu de son éternelle demeure. Mon Dieu, je m'unis à vous maintenant, je vais être uni à vous de façon sacramentelle, uniquement pendant un certain temps, tant que les accidents sont encore là, mais dès que les sucs gastriques dans mon estomac vont dissoudre les accidents du pain, les accidents non pas du pain, les accidents de la substance du corps du Christ, eh bien la présence réelle va disparaître. Mais il faut, quand on communie, avoir cette action de grâce fervente pour demander au bon Dieu qui nous amène dans le lieu de son éternelle demeure, c'est-à-dire dans le paradis. C'est pour ça qu'il est dit dans ce verset 38 du chapitre 1 de Saint Jean, « Maître, où demeurez-vous » Sous-entendu, dites-nous où vous habitez pour que nous puissions vous suivre. Et c'est effectivement ce que leur dit notre Seigneur. « Venez et voyez. » Ils vinrent et ils virent où ils demeuraient et ils restèrent chez lui ce jour-là. Voyez, donc, il y a un sens mystique qui est magnifique derrière, c'est-à-dire que les âmes sont attirées, amenées par Saint Jean-Baptiste à la porte de l'Église, et à ce moment-là, rentrent dans l'Église, qui va préparer le chemin pour les amener dans l'Église éternelle, c'est-à-dire dans l'Église triomphante du ciel. N'oubliez pas que l'Église militante d'ici-bas n'est qu'un lieu de passage qui nous amène par l'intermédiaire de l'Église souffrante, le purgatoire, à l'Église éternelle du ciel. Voyez. Le Père remarque que notre Seigneur approuve la légitimité de la demande de ses deux disciples et leur ouvre volontiers ses secrets. Et il leur dit, venez et voyez, venez et voyez. C'est-à-dire, il ne s'offusque pas, il aurait pu leur dire, de quoi vous mêlez-vous, ça ne regarde pas l'endroit où j'habite. Non, au contraire, il est heureux de voir que les premières âmes viennent à lui pour demander où il habite. Vous voyez ? Et n'oubliez pas que ce qui est admirable, c'est que les disciples n'ont pas encore compris à ce moment-là qu'il est Dieu. Ils savent qu'il est le Messie, mais ils ne sont pas encore certains de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ? Et c'est pour ça qu'on va voir un peu plus tard que les futurs apôtres ont encore du mal à croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On verra que Nathanaël va s'offusquer, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? Voyez, et puis, c'est en voyant les premiers miracles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils vont croire. Et après, la foi va augmenter, malgré des épreuves terribles, par exemple les épreuves de la Passion, et ils vont comprendre de façon extraordinaire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, au moins autant qu'ils peuvent la comprendre, avec les grâces qui sont données le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Ce n'est point par des paroles, mais par des œuvres que vous pourrez apprendre où est mon habitation. Venez donc par la foi et par les œuvres, vous verrez par l'intelligence qui vous sera donnée. Donc, venez et voyez, c'est-à-dire, venez pénétrer dans le mystère de mon incarnation. Pénétrez dans le mystère de mon incarnation, et par le mystère de mon incarnation, vous atteindrez le mystère de ma rédemption. L'incarnation m'aide à la rédemption. Oui, il faut faire attention de ne pas trop séparer comme des rondelles de saucisson les différents mystères. Les différents mystères sont tous unis, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est un. Donc le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ qui se fait homme, sans cesser d'être Dieu, donc qui unit la nature humaine à sa nature divine, dans la même personne, par l'union postatique. Mais cette union postatique a pour but de permettre le sacrifice rédempteur, c'est-à-dire le mystère de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ devint homme pour pouvoir mourir sur la croix, pas pour rien. Comme Dieu ne peut pas mourir, puisque Dieu est éternel. Donc Dieu a dû devenir homme pour pouvoir mourir sur la croix. Oui. Venez donc par la foi et par les œuvres, et vous verrez par l'intelligence qui vous sera donnée. Les œuvres, c'est la charité. Donc la foi ne suffit pas, il faut rentrer, il faut demander où est notre Seigneur Jésus-Christ, la foi, et ensuite le suivre, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on suit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la charité qui va venir infuser la vertu de foi. De foi informe, cette foi informe va devenir foi formée. Foi formée, c'est une foi vivifiée par la vertu de charité. C'est la signification. C'est très beau ces phrases des pères. Ce n'est point par des paroles, mais par des œuvres que vous pouvez apprendre où est mon habitation. Donc, je suis sur la terre pour découvrir l'habitation de notre Seigneur Jésus. Où notre Seigneur Jésus-Christ habite-t-il? Il habite au ciel. Où notre Seigneur Jésus-Christ habite-t-il? Il habite aussi dans le tabernacle. Où notre Seigneur Jésus-Christ habite-t-il? Il veut aussi habiter dans votre cœur, dans notre cœur. Et notre Seigneur Jésus-Christ vit dans notre cœur, qui devient le temple du Saint-Esprit si je suis en état de grâce. D'où le malheur épouvantable qui consiste à perdre l'état de grâce. Quand on a perdu l'état de grâce, on a perdu son temple. On a souillé le temple de Dieu par l'introduction dans notre temple, dans le temple de Dieu, d'un faux Dieu, d'une idole. On fait rentrer un faux Dieu et on installe la statue du faux Dieu au point central de notre temple qui est notre âme. Venez, voyez, Origène donne cette très belle explication. On peut faire un sermon avec cette parole d'Origène. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit. Attendez, je retrouve la phrase. Il leur dit, verset 39, venez et voyez. Il parle aux deux disciples de Saint Jean-Baptiste. Venez et voyez. Ils vinrent et virent où il demeurait. Et restèrent chez lui ce jour-là. Et Origène dit par cette parole, venez. Il les invite à la vie active. Et par cette autre, voyez à la vie contemplative. Vous voyez comment Origène est un des plus grands docteurs de l'Église, un des plus grands pères de l'Église, même si, hélas, il n'a jamais été canonisé par l'Église. C'est vraiment un grand mystère. C'est sans doute le plus grand des pères de l'Église en matière d'exégèse. Origène avait une influence considérable de son temps, 3e, 4e siècle. Une influence considérable, mais malheureusement, il a enseigné quelques erreurs. Il était un peu millénariste. Et puis, il a enseigné des erreurs, notamment il croyait en la pré-création de toutes les âmes. Et il poussait un peu trop loin le sens mystique. Mais il a eu des paroles extraordinaires. Et il a eu une énorme influence, surtout chez les contemplatifs d'Égypte. Et Origène est certainement un des pères de l'Église qui a le plus d'influence en matière d'exégèse. Par cette parole, venez, il les invite à la vie active, par cette autre, voyez, la vie contemplative. Venez et voyez, on part de la vie active, et la vie active nous mène à la vie contemplative. En fait, il faut les deux. Malheureusement, celui qui n'a qu'une vie active sans vie contemplative, il va se dessécher, il va tomber dans le volontarisme, il va tomber dans l'activisme. Et de même, d'avoir qu'une vie contemplative pure, sans un minimum de vie active, c'est dangereux parce qu'on n'est pas encore des anges. Et celui qui n'a qu'une vie contemplative sans vie active va se prendre pour un ange et ça peut mener à des catastrophes. Vous voyez, donc c'est pour ça que même les grands contemplatifs étaient aussi des actifs. Il faut l'union entre les deux. Et saint Thomas d'Aquin enseigne que la vie la plus parfaite, ce n'est pas une vie purement contemplative, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La vie la plus parfaite, selon saint Thomas d'Aquin, c'est une union entre la vie active et la vie contemplative. Pourquoi? Parce qu'on est corps et âme. Donc la vie active est au corps ce que la vie contemplative est à l'âme. Le corps séparé de l'âme est un corps mort, ça devient un cadavre. Donc ce qui va donner une vie au corps, c'est l'âme. Donc il faut une union entre le corps et l'âme. Et de la même façon, il faut une union entre cette vie contemplative qui va s'exercer à partir de la vie active. On pourrait comparer aussi, faire la même comparaison entre l'Église et l'État. L'Église est à la vie contemplative, ce que l'État est à la vie active d'une certaine façon. Donc l'Église est à l'âme, ce que l'État est au corps. Donc il faut l'union de l'Église et de l'État, parce que le corps et l'âme doivent être unis. Et ceux qui prêchent la séparation de l'Église et de l'État, c'est le cas de tous les modernes d'aujourd'hui, qui n'ont rien compris à ces choses-là, qui prêchent la séparation de l'Église et de l'État par le laïcisme, ne se rendent même pas compte qu'en séparant l'Église de l'État, on coupe le corps de l'influence de l'âme. Et quand l'âme n'influe plus sur le corps, on se retrouve avec une âme, un corps informe, informe au sens philosophique du terme, il n'y a plus d'âme pour alimenter ce corps, et du coup le corps dépérit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, les pères de l'Église parlent aussi de la dixième heure. Bon, il est dit qu'ils restèrent chez lui ce jour-là, était environ la dixième heure. Donc on voit, ils sont amenés à notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste, ils parlent avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur dit, venez, et leur demande. Il lui demande « Où demeurez-vous ? » Il répond « Venez, voyez. » Ils vinrent, ils ne se contentent pas d'écouter. « Venez, voyez. » C'est une invitation. Donc ils vinrent, suivent notre Seigneur Jésus-Christ, ils virent où il demeurait, ils ne se contentent pas de savoir où notre Seigneur Jésus-Christ habite. Ah, merci de nous avoir indiqué votre lieu d'habitation, et puis au revoir. Non, ils restèrent chez lui ce jour-là. Ils restèrent chez lui parce que quand on a trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de rester avec notre Seigneur. Vous venez de communier, attention à soigner votre action de grâce. C'est vraiment triste de voir parfois dans certaines chapelles des gens qui ne font absolument pas l'action de grâce. J'avoue, de plus en plus, je suis tenté, une nouvelle petite chapelle que j'ouvre, je suis de plus en plus tenté, je le fais maintenant presque systématiquement, après la messe, surtout au début, je mène l'action de grâce pour apprendre aux gens à faire une action de grâce. Parce que j'ai remarqué que la plupart des fidèles, pas par mauvaise volonté, mais par ignorance, ils viennent de communier, la messe se termine, et hop, tout de suite, tout le monde commence à parler, surtout si c'est dans une maison privée. Non, il faut faire une action de grâce, et c'est par l'action de grâce après la messe qu'on peut juger du degré de charité de cette chapelle, cette paroisse. Donc, ce n'est pas sans raison que l'évangéliste nous indique quelle heure il était. Il était environ la 10e heure. Il voulait apprendre le docteur comme aux disciples qu'on ne doit point négliger le soin de la doctrine sous prétexte de l'heure avancée. Même s'il est tard, il faut s'occuper de nourrir son âme. Donc la 10e heure, disent les pères, est encore ici le symbole de la loi qui a été donnée en 10 préceptes, les 10 commandements. Le temps était donc venu d'accomplir par l'amour cette loi que les Juifs ne pouvaient accomplir que par la crainte. Aussi, et c'est à la 10e heure que notre Seigneur Jésus-Christ s'entend donner le nom de maître, car il n'y a de véritable maître de la loi que celui qui en est l'auteur. Vous voyez, donc notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, commence déjà ici sa triple fonction, magistère, ministère, gouvernement. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, il donne l'exemple de ce que toute personne doit faire avec les âmes qui lui sont confiées. Dieu le Père a confié à Dieu le Fils les âmes des fidèles. Donc notre Seigneur va agir par le magistère, comme instructeur pour enseigner. Il enseigne, il est enseignant, il est maître. Puis le ministère, il est le prêtre qui sanctifie. Mais il est aussi le gouverneur, celui qui gouverne, qui dirige vers le calvaire. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prend ces nouveaux athlètes, ces nouveaux disciples qui viennent de Saint-Jean-Baptiste et présente déjà le chemin qui mène au calvaire. Au bout du chemin, il y a la croix du calvaire. Et donc il faut se rappeler que en tant que parents, les parents qui m'écoutent sur Internet, à vous de faire la même chose avec vos enfants, hein. Vous aussi, vous devez présenter notre Seigneur Jésus-Christ aux enfants. Votre travail, votre devoir d'État en tant que parent, c'est de faire aimer notre Seigneur Jésus-Christ à vos enfants. Faire aimer la messe à vos enfants. Faire aimer le catéchisme à vos enfants. Faire aimer la doctrine chrétienne à vos enfants. Et quel gâchis a lieu. Il y a eu, surtout au niveau des années 70, quel gâchis avec le catéchisme. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, un peu plus, même 12-13 ans, j'étais jeune, adolescent. Et le catéchisme que je suivais dans ma paroisse, c'était avant l'arrivée de la nouvelle messe, avant 69. J'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Donc la nouvelle messe n'était pas encore là, mais Vatican II était déjà passé. J'avais une dizaine d'années au moment où Vatican II est arrivé, parce que je suis né au temps de Pie XII, mais j'étais encore un gamin, un bébé sous Pie XII, un petit enfant. Mais j'étais en train de suivre le catéchisme dans le village où j'habitais, près d'Auxerre, dans l'Yonne, et je me rappelle, les catéchismes étaient d'un barbant. Oh là 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 là, on fait des petits dessins, on faisait plus grand chose. Heureusement, ma mère m'avait donné un bon catéchisme à partir de la miche de pain quand j'étais enfant. Parce que ce que j'ai reçu comme catéchisme à ce moment-là du curé de la paroisse, et pourtant c'était encore une fois avant la messe nouvelle, et encore la messe traditionnelle, c'était nul, absolument nul. Et le catéchisme de ma paroisse ne m'a absolument rien apporté. D'où l'importance de faire aimer le catéchisme. Et pas simplement de faire aimer le catéchisme aux enfants, faire aimer le catéchisme aux parents. Je sais que je choque certains en disant cela, mais je maintiens ce que je dis, qu'il est plus important encore d'enseigner le catéchisme aux adultes que d'enseigner le catéchisme aux enfants. Quand j'arrive dans une paroisse, la première chose que je fais quand je peux, c'est de commencer à donner des cours de catéchisme pour les adultes. Parce que les adultes pensent tous que les cours de catéchisme, c'est pour les enfants. Mais non, c'est aussi pour les adultes. Parce que si j'enseigne à un adulte, L'adulte va se rendre compte, va comprendre sa responsabilité devant Dieu et va commencer à enseigner ses propres enfants. Donc l'enseignement va passer aux adultes et des adultes aux enfants. Par contre, si j'enseigne directement les enfants, mais que les adultes n'ont rien compris et ne poussent pas à la continuation de l'enseignement que le prêtre donne aux enfants, on perd son temps. Parce que l'enfant va rentrer chez lui et puis va perdre tout ce qu'on a essayé de lui apprendre si les parents ne suivent pas la même doctrine, ne donnent pas le même exemple catholique en famille. Vous voyez, donc la responsabilité des parents est énorme. Les parents doivent connaître leur catéchisme, doivent étudier. N'oubliez pas que c'était un des devoirs des parents. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Malheur, dit Saint Bernard, à celui qui veut être canal avant d'être réservoir. Vous devez d'abord emmagasiner la doctrine de Dieu, connaître le catéchisme, aimer votre catéchisme, aimer la Sainte Messe, aimer vous confesser avant de pouvoir transmettre cet amour à vos enfants. Et malheur, malheur aux parents qui n'ont pas voulu transmettre cet amour de la messe aux enfants. C'était la catastrophe des années 70 où les parents ont arrêté de transmettre. Le catéchisme est devenu quelque chose de, je m'excuse du terme, un peu vulgaire, barbant littéralement, c'est-à-dire ennuyeux au possible. Et les enfants, de ma génération surtout, ont perdu l'amour de la messe. Parce que la messe représentait plus rien. C'est arrivé en 69, l'arrivée de la nouvelle messe, qui n'était plus rien du tout. Les enfants ont perdu tout l'amour de la messe. Heureusement, je remercie tout le bon Dieu tous les jours que j'ai pu, après, par l'intermédiaire d'un ami, découvrir la foi catholique traditionnelle. Alors connaître Monseigneur Lefebvre autour des années 70, parce que sinon je serais resté complètement moderniste, puisque ma famille est moderniste. Vous voyez, donc comprenez ces choses-là. La dixième heure, c'est 16h, 4h de l'après-midi, 2h avant le coucher du soleil. Donc Saint Jean-Baptiste ajoute ces mots pour montrer le zèle du Christ qui, bien qu'il soit tard, ne voulut pas attendre le jour suivant, mais s'occupa immédiatement des choses qui regardent au salut. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement leur montre le chemin, venez et voyez, mais il les pousse à demeurer. Ils demeuraient, ils restèrent chez lui ce jour-là. Imaginez un peu de quoi ils ont parlé. Ce n'est pas dans l'Évangile. Quel fut le thème abordé par notre Seigneur Jésus-Christ au début de sa vie publique? C'est deux premiers apôtres, deux premiers disciples qui viennent pour parler avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé seul? Est-ce que les apôtres, les futurs apôtres, ont posé des questions? On ne sait pas, ce n'est pas dans l'Évangile. Ils restèrent chez lui. Bien, faisons rester notre Seigneur Jésus-Christ chez nous. Après la communion, pensez à l'action de grâce, mon bien cher frère. Utilisez le mot ardor, A-R-D-O-R, adoration, demande, offrande. Adoration, remerciement, demande, offrande, résolution. Soignez votre action de grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est dans votre cœur, c'est là qu'il faut vraiment lui demander tout ce dont nous avons besoin. Cela montre également l'ardente dévotion des disciples du Christ qui, sans se préoccuper de l'endroit où ils allaient dormir, passèrent leur temps à écouter le Christ plutôt que d'être chez eux dans leur lit. Et ce sont des choses très importantes. Demandez au bon Dieu cet amour pour la doctrine, cet amour pour le catéchisme. Il faut que vous puissiez sortir de chaque messe avec un peu plus d'amour du bon Dieu dans votre âme. Si après un sermon, après une messe, vous avez plus d'amour dans votre âme que quand vous êtes entré dans la chapelle, Deo gratias. Mais si votre degré d'amour, votre degré de charité n'a pas augmenté pendant la Sainte Messe, alors j'ai perdu mon temps en tant que prêtre. Vous voyez ? Donc il faut constamment augmenter l'amour du bon Dieu. Dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas, il recule. Et faites attention à ça. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il est prêt à vous accueillir. Mais il faut le suivre. Venez, voyez. Et si les futurs apôtres avaient dit, oh, un peu tard, on viendra vous voir demain. On a vu où vous étiez. Non, ils vinrent et ils virent où ils demeuraient. Ils restèrent chez lui. Dieu incarné a dû leur dire, donnez-vous la peine d'entrer. Il les a fait rentrer dans la maison où ils étaient reçus. Là où habitait notre Seigneur Jésus-Christ, où est-ce que c'était, on ne sait même pas très bien. On parle souvent de la ville de Capharnaüm. C'est assez bizarre dans l'Évangile. La ville de Capharnaüm, c'est la ville de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il n'était pas de Capharnaüm, mais c'est le nom qui est donné à la ville de Capharnaüm, la ville de notre Seigneur. Voilà, nous allons arrêter là, puisqu'il fait déjà une heure que je vous parle. Donc nous continuerons, si Dieu veut, dimanche prochaine fois, sans doute pour peut-être terminer le chapitre 1er de Saint Jean. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Ange gardien, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.